21h à Paris, l'heure d'un nouveau journal avec Marion Cazeneuve. Bonsoir Marion.
Bonsoir Diane, bonsoir à toutes et à tous. C'est pour ce soir ou pour demain. Encore des incertitudes sur ces pourparlers directs entre l'Ukraine et la Russie. Mais après une journée d'invectives dans chaque camp, il faut dire que personne n'a vraiment d'attente, y compris les Américains. Face à la famine de masse qui guette les Palestiniens à Gaza, les États-Unis proposent l'aide d'une toute nouvelle fondation dont on sait très peu de choses et l'ONU s'en méfie. Et puis dans ce journal, on verra aussi que les efforts de la Chine paient en matière environnementale. Elle se tourne de plus en plus vers les renouvelables et ça fait baisser ses émissions de CO2. Les délégations russes et ukrainiennes se rendent donc à des pourparlers en traînant les pieds. Chaque camp a fait savoir qu'il avait peu d'attentes sur ces discussions à Istanbul qu'avait proposé Vladimir Poutine. Pure façade, a regretté son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La journée a surtout été marquée par des invectives de part et d'autre. Alors les Américains l'admettent, ils ont peu d'espoir sur cette rencontre d'Istanbul qui n'a d'ailleurs toujours pas commencé. Le secrétaire d'État Marco Rubio s'est exprimé tout à l'heure d'Antalya.
J'espère que ces discussions auront lieu entre l'Ukraine et la Russie, en présence de nos homologues turcs ainsi que d'un membre ou de plusieurs membres de notre équipe au niveau approprié. Mais je veux être franc, je ne pense pas, nous n'avons pas de grandes attentes quant à ce qui se passera demain. Et franchement, à ce stade, je pense qu'il est tout à fait clair que la seule façon de parvenir à une avancée décisive est que le président Trump et le président Poutine se rencontrent. Il faudra un engagement à ce niveau pour faire avancer les choses. Je ne pense pas que quoi que ce soit de productif puisse se produire à partir de maintenant, tant qu'ils n'auront pas eu une conversation très franche et directe. Ce que le président Trump est prêt à faire, je le sais.
Marco Rubio, le secrétaire d'État, a donc réitéré les propos du président Donald Trump qui disait plus tôt dans la journée qu'une solution passait par des discussions directes entre les présidents russes et ukrainiens. Donald Trump, lui, poursuit sa tournée dans les monarchies du Golfe. Après l'Arabie Saoudite et le Qatar, il est arrivé tout à l'heure dans les Émirats Arabes Unis, tournée très axée sur les affaires. Le président américain signe des contrats à tour de bras. Les Émirats ont d'ailleurs promis ce soir d'investir 1400 milliards de dollars aux États-Unis sur 10 ans. Les États-Unis qui travaillent aussi pour rétablir l'aide humanitaire à Gaza. Avec Israël, ils ont proposé un plan en ce sens, mais il a été très critiqué. L'ONU, par exemple, a refusé d'y participer en disant qu'il ne respectait pas les principes d'impartialité et d'indépendance. Une distribution organisée par une fondation soutenue donc par Israël et l'administration Trump, mais on en sait peu encore sur cette fondation et sur son futur rôle dans l'enclave, Alice Froussard.
La Fondation humanitaire pour Gaza a été enregistrée en Suisse au début de l'année. Elle se targue d'avoir réuni des experts chevronnés afin de mettre en place ce nouveau système de distribution alimentaire à Gaza. Mais d'après un document destiné aux donateurs et aux États, ses futurs dirigeants sont avant tout des Américains, en partie d'anciens militaires. Aucun n'a de lien apparent avec l'aide humanitaire, ni même d'expérience dans ce domaine. De nombreux défenseurs des droits de l'homme mettent en garde. Le risque existe que cette fondation, à laquelle l'administration Trump a apporté son soutien, puisse contribuer à des crimes internationaux, car elle court-circuite l'acheminement traditionnel de l'aide. Le plan A consiste à nous laisser entrer, insiste Tom Fletcher, le chef des affaires humanitaires de l'ONU. Il n'offre pas non plus de solutions claires à long terme, dénonce Mara Bernasconi. Elle est responsable plaidoyer de Handicap International pour les territoires palestiniens occupés.
Ce plan renforce l'occupation plutôt que d'y mettre fin. Et évidemment, il viole l'avis de la Cour internationale de justice qui en exige la fin.
La semaine dernière, lors d'une conférence de presse, l'ambassadeur des États-Unis en Israël l'a lui-même reconnu. Ce nouveau système risque lui aussi d'être confronté à des difficultés. Mais, a-t-il ajouté, le danger, c'est de ne rien faire.
Alice Froussard, l'armée israélienne, elle poursuit et des bombardements quotidiens sur Gaza. Plus de 100 personnes ont été tuées aujourd'hui, selon les secours palestiniens. Toujours dans la région, des sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti ce soir à Jérusalem. L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen. En République démocratique du Congo, le Sénat examine la demande de levée d'immunité de Joseph Kabila, l'ancien président et sénateur à vie. Le réquisitoire, lu tout à l'heure, affirme que le mouvement AFC M23, qui contrôle une partie du territoire congolais, bénéficie de l'appui de Joseph Kabila. Soutien qui aurait permis à cette coalition armée de lancer des attaques contre les civils dans l'est du pays. Le Sénat devra donc se prononcer sur cette demande de levée d'immunité. Plus d'informations dans le prochain journal d'actualité africaine avec Sylvie Berruet à 19h30, temps universel. RFI, 19h05 en temps universel, 14h05 à Lima, au Pérou. La crise politique s'aggrave encore. Le Premier ministre a donné sa démission hier, alors que le gouvernement est très impopulaire et que le pays fait face à une explosion de la criminalité. Pour les Péruviens, c'est devenu monnaie courante. Ils se sont résignés, Martin Chabal.
Le Premier ministre, Gustavo Adriansen, a décidé de démissionner avant le vote de la motion de censure du gouvernement au Congrès. Son manque d'action lors de l'enlèvement de 13 employés d'une mine sauvagement assassinée par une bande criminelle aura eu raison de son gouvernement. Diana ne sait plus quoi dire.
Aïe, 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 mon pays...
Mon pays...
Je ne sais même pas comment l'expliquer. La présidente est terrible et le gouvernement, c'est pareil.
Selon elle, pour changer les choses, il faudrait modifier la loi avant l'élection présidentielle prévue l'an prochain.
Au Pérou, il nous faut des lois drastiques. Avant, on n'utilisait pas la ceinture de sécurité en voiture, et depuis qu'il y a une amende, les gens mettent la ceinture. Il faudrait ce genre de règles pour les politiciens.
En pleine partie d'échec, Jean Carlos, lui, croit encore à la politique, mais il préfère rire de ce qu'il se passe en ce moment.
Ici, c'est dans notre culture de rire des politiciens. On se défoule en faisant des blagues parce qu'on est abandonné par la politique actuelle.
Et ces plaisanteries très populaires inondent les médias. Logique, le dernier sondage Ipsos estime que la présidente Dina Boluarte n'a plus que 2% d'approbation parmi la population, et c'est encore moins qu'il y a 2 mois. Martin Chabal, Lima, RFI.
L'Union européenne considérait TikTok comme plutôt exemplaire. Mais voilà qu'il fait un écart de conduite. La Commission européenne ouvre la voie à une amende contre le réseau social chinois pour manque de transparence en matière de publicité en ligne. La Commission juge par exemple qu'il ne fournit pas assez d'informations sur la manière dont les utilisateurs sont ciblés. Et c'est la première fois donc que le réseau social chinois est mis en cause dans le cadre du nouveau règlement européen sur les services numériques. La Chine, pointée du doigt pour ses émissions de gaz à effet de serre, c'est l'un des pays qui pollue le plus au monde, mais il a aujourd'hui de quoi répondre aux critiques, puisque ses émissions de CO2 sont en baisse sur un an au premier trimestre, selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur. Une baisse de 1,6%, c'est modeste certes, mais la demande d'électricité est en hausse, alors c'est significatif, ça montre, Cléa Broderst, que la Chine se tourne de plus en plus vers les renouvelables.
Ce changement marque une rupture. Contrairement au précédent repli lié à un ralentissement économique, cette fois-ci, ce sont les énergies propres, solaires, éoliens, nucléaires, qui ont permis de limiter le recours au charbon. La Chine parvient donc à stabiliser, voire à faire baisser ses émissions, tout en maintenant sa croissance électrique. Pour les experts, si cette tendance se poursuit, elle pourrait annoncer un véritable pic, suivi d'un déclin structurel des émissions liées à l'énergie. Plusieurs dynamiques accélèrent ce virage. Une nouvelle politique tarifaire pousse les acteurs du secteur à installer massivement des capacités renouvelables avant son entrée en vigueur, et la guerre commerciale relancée par Donald Trump renforce l'orientation vers un modèle basé sur la consommation intérieure plutôt que sur les exportations. Mais la Chine reste tout près de son dernier pic d'émissions, à peine 1% en dessous. Autrement dit, un simple rebond industriel pourrait inverser la tendance. Et les efforts restent insuffisants pour respecter les objectifs climatiques de l'accord de Paris à horizon 2030. Un signal encourageant donc, mais encore fragile. Le vrai défi pour Pékin sera de rendre cette baisse durable au-delà des effets conjoncturels. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Et toujours au volet environnemental, la Belgique, elle renonce à sortir du nucléaire. Le Parlement belge vient d'abroger une loi en ce sens qui avait été adoptée en 2003. Elle prévoyait une sortie de l'atome pour cette année. Et cette loi interdisait aussi à la Belgique de construire de nouvelles capacités de production nucléaire. Elle vient donc d'être abrogée. Le Festival de Cannes, troisième journée de projection, journée marquée par un hommage à Fatma Hassouna, photojournaliste palestinienne tuée à Gaza le 16 avril. Elle venait d'apprendre que le documentaire qui racontait sa vie était sélectionné pour Cannes dans une sélection parallèle. La réalisatrice iranienne Sepideh Farsi a donc présenté ce documentaire « Put your soul on your hand and walk » tout à l'heure devant le public. Le jour de l'ouverture du festival, la présidente du jury, Juliette Binoche, avait aussi rendu hommage à Fatma Hassouna. Toute notre production sur le Festival de Cannes est à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Il est 21h10 à Paris, 19h10 en temps universel. À suivre, le décryptage.